Le journal avec vous, Mathilde Romagnan. Bonjour Mathilde.
Bonjour Eric, bonjour à tous. L'enquête se poursuit à Nice après l'attentat qui a fait 3 morts jeudi sur place. C'est l'émotion qui prime. La basilique Notre-Dame rouvrira demain pour rendre hommage aux victimes. Au deuxième jour du reconfinement, certains maires s'insurgent contre la fermeture des petits commerces jugés non essentiels et prennent des arrêtés pour permettre leur réouverture, nous le verrons. Et puis les sports, dernier match du tournoi des 6 nations pour la France qui va tenter de battre l'Irlande ce soir.
Un mot sur notre invité ce matin à 8h20, ce sera Benoît Hamon pour la sortie de son livre « Ce qu'il faut de courage », plaidoyer pour le revenu universel. Le livre paraît aux éditions des Équateurs.
France Inter. 2 jours après l'attentat de Nice, place au recueillement pour les victimes. La basilique Notre-Dame où s'est déroulée en partie l'attaque va rouvrir ses portes demain soir pour une messe prévue à 18h. Une façon pour les paroissiens de rendre un premier hommage aux 3 victimes de l'attaque. Thibault Lefèvre.
Jean-François retient ses larmes rien qu'à l'idée d'entrer à nouveau dans l'enceinte de la basilique.
On sait qu'on va piétiner leur sang qui a coulé par terre. Hein. C'est indélébile.
Il est trésorier de la paroisse et était très proche de Vincent Loquès, le sacristain, assassiné jeudi matin.
Les premiers pas, on va trop Vincent dans notre cœur. Voyez, on va être vraiment, vraiment, vraiment touché là, parce qu'on est touché. On le verra à côté de nous quasiment.
La messe de dimanche devait permettre d'installer le nouveau prêtre de la paroisse Franklin Parmentier, tout juste arrivé le 1er septembre. La cérémonie est reportée et il célébrera finalement une messe de réparation avec l'évêque de Nice, André Marceau.
Quand il y a quelque chose qui profane l'église, eh bien il faut que nous resignifions notre volonté. On ne peut pas accepter que ça reste. Vous avez taché votre vêtement, ben vous avez le lavé. Et ben là, c'est pareil. On est installé dans le sang. Au lieu de la vivre dans la fête de tous les saints, on la vit dans cette fête où il y a aussi les martyrs. Nous sommes plus grands que la mort. Nous sommes plus forts que la haine.
D'autres messes en hommage aux victimes devraient être organisées dans les prochaines semaines, si bien entendu, la situation sanitaire le permet.
Thibault Lefèvre avec Benjamin Thuot pour les moyens techniques. L'enquête, elle, se poursuit. Hier, une deuxième personne a été placée en garde à vue. Un homme de 35 ans. L'assaillant n'a toujours pas pu être entendu hier soir. Son pronostic vital étant toujours engagé. Le gouvernement a confirmé que les effectifs de Sentinelle passeraient de 3000 à 7000. Les lieux de culte et les écoles seront particulièrement surveillés.
Au deuxième jour du reconfinement, la situation sanitaire reste préoccupante en France.
Plus de 49 000 cas de Covid-19 enregistrés en 24 heures. Une personne testée sur 5 est positive. Actuellement, 3 368 personnes se trouvent en réanimation. Confinement oblige, les commerces dits non essentiels sont fermés pour au moins un mois. Mais des députés dénoncent une distorsion de la concurrence entre les commerces de proximité et les grandes surfaces. Des maires ont pris des arrêtés autorisant les commerçants à ouvrir leurs boutiques. C'est le cas à Perpignan, à Brive ou à Aubusson. Exemple dans ce journal, dans une commune de Lyon, avec vous Romain Chanson.
Migennes, ville de 7000 habitants à 20 km d'Auxerre, son maire François Boucher, inquiet pour ses commerçants, les autorise à rester ouverts.
Quand on sait que les supermarchés, hypermarchés qui composent notre ville vendent tous les produits qui sont vendus au centre-ville, il était logique que je réagisse pour retraiter l'égalité entre les différentes formes de commerce pour éviter une pratique déloyale qui est contraire au code du commerce.
Un arrêté identique a été pris à Chalon-sur-Saône, ville de 45 000 habitants, par son maire Gilles Platré. Ces arrêtés sont illégaux, rappellent les préfectures. L'Association des maires de France n'approuve pas cette forme de désobéissance civile, mais son secrétaire général, Philippe Laurent, dénonce le manque de cohérence des mesures gouvernementales.
Lorsque vous avez une boulangerie et à côté un marchand de vêtements, la boulangerie évidemment peut ouvrir, mais pas le marchand de vêtements. Donc on a vraiment le sentiment qu'il y a soit une ignorance de la façon dont ça fonctionne, ce pays, soit une inéquité très forte entre les différents types de commerce. Donc là, il y a vraiment une urgence à reconsidérer le système de confinement.
Philippe Laurent pointe une autre contradiction. D'un côté, l'État soutient des programmes de revitalisation des centres-villes et de l'autre, il affaiblit les commerçants avec ses mesures de confinement.
Et le gouvernement a annoncé la fermeture momentanée des rayons livres et culture des grandes surfaces alimentaires et spécialisées par souci d'équité face à la colère des libraires, contraint eux de baisser le rideau. Les conséquences du reconfinement seront lourdes également pour les professionnels du transport, du ferroviaire à l'aérien, en passant par les transports publics dans les grandes villes. La facture du premier confinement avait déjà été salée, celle du deuxième ne fera qu'alourdir une année marquée par les nombreuses atteintes portées à la liberté de circuler. Fabien Cazot.
Pour les transports en commun, ce reconfinement aura de lourdes conséquences financières. La RATP, par exemple, remboursera le mois de novembre à tous ses abonnés qui en font la demande. Ils ont jusqu'à aujourd'hui pour se manifester. Pour l'instant, les transporteurs publics en Île-de-France ont prévu de maintenir le même niveau de service la semaine prochaine, quitte à réduire la fréquence des trains aux heures creuses celles d'après. La SNCF, elle, a déjà été confrontée à une importante baisse de trafic avant même le reconfinement. À peine deux tiers du nombre habituel de voyageurs fin septembre dans les TGV et les intercités, trois quarts dans les TER. Quant aux transporteurs régionaux alternatifs, Keolis et Transdev notamment, ils accusaient déjà un manque à gagner de 2 milliards d'euros avant l'été. Les pertes sont également colossales dans l'aérien. 1 milliard 600 millions d'euros chez Air France KLM pour le seul troisième trimestre. Le plan d'économie qui prévoit jusqu'à 12 500 suppressions d'emplois reste plus que jamais d'actualité, malgré les 10 milliards d'aides et de prêts garantis débloqués au printemps dernier.
Fabien Cazot. À l'étranger, au moins 26 morts et plus de 800 blessés en Turquie après un séisme en mer Égée. Un bilan toujours provisoire de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre a provoqué aussi d'importants dégâts matériels. En Pologne, la mobilisation était encore très forte hier soir dans les rues de Varsovie. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pour défendre le droit à l'avortement. Une semaine après la décision d'interdire le recours à l'IVG en cas de grave malformation du fœtus, la contestation prend une ampleur inédite. Reportage dans les rues de Varsovie de Sarah Bakaloglou.
Face au palais royal de Varsovie, Claudia attend le départ du cortège. La jeune femme de 22 ans, venue de Cracovie pour l'occasion, est enthousiasmée par le grand nombre de manifestants.
Ça se sent ce soir, on veut tous de la liberté, des droits humains, que tout soit normal, comme dans les pays occidentaux. Cela donne de l'espoir. La Pologne était un pays très patriarcal, avec beaucoup de traditions, et je ne m'attendais pas à ce qu'autant de personnes réclament du changement.
Quelques minutes plus tard, la situation se tend. Une ministre nationaliste débarque et tente de s'en prendre à la foule avant d'être contenue par la police. Le cortège démarre, mais l'ambiance est plus grave. Ivona reste malgré tout enthousiaste.
Cette mobilisation est extrêmement puissante et je suis contente d'en faire partie. J'ai l'impression d'être en mai 68 devant un moment si historique. Je pense qu'on voit déjà la démocratie en train de s'effondrer en Pologne. Mais la question est, que va-t-il se passer maintenant ?
Le président polonais Andrzej Duda a proposé ce vendredi d'autoriser l'avortement en cas de malformation fatale au fœtus, un compromis rejeté en masse par les manifestantes. À Varsovie, Sarah Bakaloglou, RFI pour France Inter.
Il est 7h08 et cette question, Mathilde, à présent, que contient donc exactement votre cigarette électronique ?
L'agence sanitaire ANSES a fait l'inventaire de tous les ingrédients contenus dans les produits de vapotage commercialisés en France. C'est une première, une base de données pour ensuite évaluer la toxicité du vapotage. Mais il y a encore des zones d'ombre sur la composition de certains produits, Sandy Dauphin.
Saveur popcorn, menthe glacée ou bubble gum, l'ANSES a scruté les étiquettes des plus de 33 000 produits de vapotage vendus et fabriqués en grande majorité en France. Glycérine végétale, nicotine, arôme. Résultat, une petite proportion, 4% des liquides, contient au moins un ingrédient interdit, soit parce qu'il est considéré comme cancérogène, susceptible de favoriser les mutations génétiques ou toxiques pour la fertilité ou le fœtus. Mais le flou demeure sur la composition exacte de certaines recharges, car de nombreux vapoteurs fabriquent eux-mêmes leurs produits à la maison. Benoît Labarbe, responsable de la mission produits de vapotage à l'ANSES.
Certains vont acheter des concentrés de nicotine, des concentrés d'arôme et des bases et faire l'assemblage eux-mêmes chez eux. Près de 4 vapoteurs sur 10, 40%, ont déjà eu recours à cette pratique. Donc effectivement, ça nous pose des questions, ça nous interroge sur les risques potentiels qui peuvent être liés à cette pratique.
Prochaine étape, l'ANSES est en train d'évaluer la toxicité de la cigarette électronique. Que se passe-t-il une fois que les ingrédients du liquide sont chauffés pour être inhalés ? Les résultats de cette étude sont attendus début 2021.
Mais la liste de ces ingrédients est disponible sur le site internet de l'ANSES.
Il y aura du rugby ce soir. Les Bleus vont tenter de remporter rien que ça le tournoi des Six Nations.
Oui, le 15 de France affronte le 15 du trèfle, l'Irlande, à 21h05. Le tournoi avait été interrompu en mars à cause de l'épidémie. Et ce soir, un très large succès face à l'Irlande est obligatoire. Mais avec ce 15 de France-là, rien n'est impossible, Fanny Lechevestrier.
Superbe, la Chistera, le retour intérieur.
Chistera, geste imprévisible, superbes essais. Cela fait longtemps qu'on ne s'était pas autant enflammé à regarder jouer l'équipe de France. Même les joueurs prennent du plaisir, nous dit l'ailier Vincent Rathez.
C'est vrai qu'on a arrive à développer un jeu offensif plus sympa que par le passé. Ça fait toujours plaisir de retrouver une petite identité qui faisait la force de notre pays par le passé.
Et cela se traduit par déjà 18 essais inscrits lors des 5 matchs de l'Arc Galtier. Alors normal d'avoir du beau jeu, vous diront certains, quand vous avez des Dupont, Vakatawa ou Ramos dans votre équipe. Des talents libres de s'exprimer comme bon leur semble, résume le demi d'ouverture Romain Tamac.
On a des joueurs tellement talentueux à tous les postes qu'il peut se passer n'importe quoi sur le terrain. Voilà, ce jeu dans le désordre nous convient vraiment bien.
Mais pour le Parisien Gaël Ficou, le retour du French Flair a également d'autres explications.
Bon, il y a forcément du talent, mais du talent il y en avait avant. C'est un staff beaucoup plus élargi, c'est beaucoup plus de joueurs mis à disposition. Je me rappelle que Saint-André déjà à l'époque il disait qu'il voulait 42 joueurs. Aujourd'hui, c'est vrai que Fabien en bénéficie plus largement, on va dire. Et après, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais ça reste entre joueurs.
Un beau jeu retrouvé en tout cas qui pourrait bien permettre à la France de remporter son premier tournoi depuis 10 ans.
France-Irlande, coup d'envoi à 21h05 ce soir au Stade de France.
On suivra ça pour les amateurs, évidemment, avec intérêt. À tout à l'heure, Mathilde Romagnan. Votre prochain journal, ce sera à 8h.